Bienvenue dans Inspirer Inspirante, l'émission qui donne la parole à des étudiants engagés et inspirés.
Et si, pendant tes études, tu pouvais déjà réaliser tes rêves, oserais-tu te lancer dans l'aventure ?
Un jeudi sur deux, sur Radio Campus Angers.
Bonjour, bienvenue à tous dans un nouvel épisode d'Inspirer Inspirant. Je suis accompagnée aujourd'hui de François, bienvenue à toi.
Merci Colline.
C'est avec plaisir de pouvoir t'accueillir aujourd'hui dans cette émission et dans les studios de Radio Campus. Alors je vais me permettre de te présenter en quelques phrases. Tu as 24 ans, tu es angevin mais tu vis actuellement à Paris, tu es doctorant à l'université d'Evry en relation avec l'INSEP, plus précisément l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, en lien avec la Fédération Française d'Athlétisme. En parallèle, tu as débuté il y a quelques années un cheminement spirituel te menant aujourd'hui à vivre en tant que regardant au sein de la communauté des Augustins de l'Assomption, dans laquelle tu vis actuellement. On va donc prendre le temps aujourd'hui de discuter de ton parcours, de comprendre un peu plus ce que signifie donc pour toi cet engagement. J'aimerais donc tout d'abord commencer par savoir si tu pourrais nous présenter un peu ton parcours scolaire jusqu'à aujourd'hui, notamment donc universitaire.
Alors ça a débuté maintenant il y a 6 ans. Après un bac scientifique qui a été un peu chaotique, j'ai enfin pu faire ce que je voulais vu que j'ai commencé mes études en STAPS à l'IFEPSA d'Angers, donc, qui est rattaché à l'UCO. Et là j'ai fait mes deux premières années de STAPS là-bas. Sauf que j'avais déjà en tête un peu ce que je voulais faire par la suite, donc je suis parti à Nantes me spécialiser pour faire une licence entraînement sportif avec la spécialité athlétisme. Et puis après ma licence 3 à Nantes, j'ai eu la chance d'être retenu pour le master de l'INSEP, dans lequel j'ai fait mes deux années de master. Et puis après, il y a eu un an de transition pour préparer vraiment le doctorat et le temps de pérenniser les financements, avoir sur l'encadrement. Et depuis maintenant, depuis hier, je commence mon doctorat en lien avec la Fédération Française d'Athlétisme, l'Université d'Evry et puis l'INSEP.
Et du coup, c'était quoi un peu la spécialité de ton master ?
Alors le master, le grand intitulé, c'est entraînement et optimisation de la performance. Et vu qu'il est rattaché à l'INSEP, derrière, il y avait une mention spécialisée pour l'entraînement dans le sport de haut niveau.
Ok, et pourquoi tu as souhaité faire un doctorat après ça ?
Parce qu'il y a un nouveau métier dans le sport de haut niveau qui est en train d'émerger, qui s'appelle l'accompagnement scientifique. Et en fait, on n'est pas entraîneur, on n'est pas non plus chercheur, on est à l'interface entre les deux. Donc il faut à la fois connaître le monde de l'entraînement, donc savoir entraîner. Et pour être reconnu aussi dans le monde de la recherche, sans doctorat, c'est très compliqué. Donc c'est un petit peu naturel. Et puis c'est un défi aussi que je me suis lancé il y a 8 ans. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est un parcours chaotique en terminale où beaucoup pensaient que j'allais même pas avoir le bac. Et je leur dis attendez que je trouve ma voie et vous verrez de quoi je suis capable. Et voilà, c'était un petit défi aussi personnel de me lancer dans ce doctorat là. Et en plus je m'y plais très bien.
Ok, c'était un peu un challenge quoi.
Exactement.
Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton doctorat, en tout cas l'intitulé un peu de ta thèse, etc.
Alors l'intitulé, il n'y a pas de souci, mais je vais peut-être essayer de le préciser par la suite. L'intitulé, c'est comment optimiser la récupération et la performance pour les sportifs de haut niveau qui sont engagés dans la réitération d'efforts à très haute intensité. Très concrètement, en fait, le projet de thèse il s'inscrit dans la perspective des JO de 2024 qui auront lieu à Paris. Et notre objectif à terme, c'est de proposer des stratégies de récupération et d'optimisation de la performance pour les coureurs essentiellement de 400 mètres afin de faciliter l'enchaînement des courses lors de leur compétition. Et plus précisément, si je vais un petit peu plus dans les détails, c'est on sait l'impact au niveau physiologique que peut avoir un effort à très haute intensité, style 400 mètres, un point d'un impact physiologique mais aussi psychologique. Par contre, la littérature scientifique ne nous renseigne pas sur l'impact d'une réitération ou plus précisément d'un enchaînement de ces efforts à haute intensité. Donc l'objet de la thèse, ça sera dans un premier temps de savoir physiologiquement et psychologiquement l'impact d'un exercice, puis de deux et de trois, pour alors à terme proposer, comme je le disais tout à l'heure, des stratégies d'optimisation et de récupération destinées aux sportifs de haut niveau.
On va revenir un peu aux sources, on va dire. Déjà, pourquoi l'athlétisme ?
Alors, ça n'a pas toujours été l'athlétisme. J'ai quand même fait 12 ans de football avant. Et puis, à un moment, je stagnais un petit peu. Donc, en première, il y a un ami qui faisait de l'athlé et qui m'a dit viens tester un jour. Et puis c'est un sport qui était vraiment plutôt sympa, où je passais d'un sport collectif à un sport individuel, mais on retrouvait quand même cette dimension collective, parce qu'il y avait un groupe d'entraînement, donc c'était vraiment attrayant par ce sens-là. Et en fait, je me suis blessé à de nombreuses reprises, donc je suis passé du côté entraîneur, et là je suis tombé vraiment amoureux totalement de l'entraînement et de sa méthodologie. Et c'est pour ça que j'ai persisté dans l'athlétisme, mais vraiment de l'autre côté. J'ai pas été très longtemps athlète. Je cours pour le plaisir, mais je suis plus vraiment du côté entraînement maintenant.
Et du coup, qu'est-ce qui t'a intéressé un peu dans le côté du... parce que t'accompagnes du coup des... Enfin, tu peux en parler un peu des sportifs de haut niveau. Qu'est-ce qui, dans le sport de haut niveau, t'a intéressé
Alors, initialement, forcément, je pense en tant que stapsien, étudiant issu de staps, ça fait toujours... c'est peut-être un petit peu le Graal de pouvoir travailler dans le sport de haut niveau. Donc voilà, peut-être les yeux qui pétillent au début. Et puis après, je suis vraiment... je me suis attaché à ce type de personnes parce que les sportifs de haut niveau, c'est vraiment peut-être 1% de la population. Je dirais encore moins. Et ils ont leur particularité, c'est des gens très sensibles qui vivent toutes les émotions de façon exacerbée. Mais ça, c'est aussi dans les moments difficiles. Du coup, ça fait leur particularité, mais aussi des moments très forts avec les compétitions, le quotidien. Donc c'est une population qui est vraiment atypique. Et je pense qu'on pouvoir travailler avec eux, c'est une vraie chance et une vraie grâce. Ouais.
D'accord. Maintenant, on va continuer en discutant un peu plus donc, de ton engagement. Et je voudrais savoir un peu d'où t'es venue cette volonté, déjà premièrement de t'engager dans ta foi, dans une religion, et pourquoi cette religion plus particulièrement? C'est un peu large, mais voilà.
Alors c'est pas si facile que ça d'y répondre, parce que forcément je baigne depuis tout petit, mes parents sont, plutôt ma maman est issue d'une famille plutôt catholique, mon papa après avoir rencontré ma maman, c'est confirmé à 40 ans, donc quand même, j'ai grandi dans une atmosphère où la religion était un petit peu, faisait partie de l'éducation. Après, jusqu'à mes 12-13 ans, je me posais pas trop de questions. Puis à ce moment-là, il s'avère que ma sœur aînée, parce que j'ai trois grandes sœurs, est devenue ce qu'on appelle laïque consacrée, donc c'est une personne qui consacre sa vie au Seigneur. Et là, c'était un choix que j'ai pas du tout accepté. Donc pendant 3 ans, moi, je lui ai pas parlé du tout. Et pendant 4 ans, j'ai pas remis un pied à l'église, et puis voilà, franchement, ça me passait au-dessus, je ne comprenais pas ce message-là qu'on pouvait entendre. La religion catholique, c'était un truc auquel je ne croyais pas et du coup, j'adhérais pas du tout. Et c'est qu'à partir de ma licence 2, où là, j'ai un ami très fort qui m'a vraiment interrogé et titillé. Et je me suis posé du coup d'autres questions et c'est devenu après quelque chose de central dans ma vie. J'ai eu la chance de faire un pèlerinage à Lourdes qui m'a interpellé, qui a permis de mettre des mots aussi, des sensations sur des choses que je ressentais. Donc de fil en aiguille, après jusqu'à aujourd'hui, je suis devenu de plus en plus engagé, quitte à devenir peut-être même engagé pour toute la vie. Donc voilà.
Et tu parlais d'engagement, mais du coup, qu'est-ce que tu as eu comme engagement avant et qu'est-ce que ça t'a apporté en fait dans ta vie ?
Alors j'ai eu des engagements à plusieurs niveaux, classique, enfant de cœur avec des amis, où là du coup c'était plus pour prendre du bon temps avec mes amis pour passer le temps à la messe. Après, j'ai eu des engagements peut-être tous les étés où avec mes parents, on a fait les chemins de Compostelle. Là, j'étais avec mes sœurs et des amis de la famille. Donc, c'était quand même, a posteriori en tout cas, il y avait un vrai chemin aussi spirituel. Donc, ça, c'était fort. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir partir en tant que jeune à Lourdes pour au pèlerinage. Et puis après, à 4 reprises en tant qu'animateur. Donc, c'est les gros engagements que j'ai pu avoir jusqu'à présent.
D'accord. Et ça t'a apporté quoi dans ta vie ?
Beaucoup des amitiés très fortes, ça c'est évident. La personne qui, en tout cas mon ami qui compte le plus, issu de ce milieu-là, et j'ai partagé toutes ces choses-là avec lui, donc forcément ça crée même plus qu'une amitié, c'est devenu un vrai frère. Donc ça c'est la première chose que je vis, parce que on a passé des moments, comme tous les amis forcément, avec cette affinité-là, des moments du quotidien, c'est de l'ordre de la spiritualité. Et c'est indescriptible, mais c'est des liens qui restent et qui demeurent aujourd'hui, même si on se perd un peu de vue avec forcément la distance. Donc voilà, ça renforce ces relations-là.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler du coup un peu des 3 dernières années, de ce qui s'est passé, ce qui a changé ?
Alors j'ai, en rentrant du Bénin, avec ma sœur a fait ses premiers vœux en tant que laïque consacrée, j'ai enfin, ça faisait déjà un petit bout de temps que je me disais pourquoi pas moi aussi consacrer ma vie pleinement. Et il y a 3 ans de cela, j'ai décidé de rentrer ce qu'on appelle au séminaire GFU, groupe de formation universitaire, où en fait c'est un séminaire classique, mais qui n'est pas à temps plein. C'est-à-dire que le diocèse d'Angers en l'occurrence, avec Monseigneur Delmas, m'envoyait pour parfaire mes études, donc là finir mon master, et puis après dans le doctorat. Mais j'étais envoyé par l'église, donc j'étais aussi dans le monde profane, comme on peut l'appeler. Et voilà, du coup, j'ai vécu 2 ans en tant que séminariste pour me former au vu d'être prêtre diocésain. Et puis cette année, j'ai mis cette formation entre parenthèses, je ne l'ai pas stoppée, je l'ai vraiment mis entre parenthèses pour discerner un autre type de vie et un autre type d'engagement qui n'est plus être prêtre diocésain. ou le presbytère, comme on l'appelle parfois, mais plus la vie religieuse avec une vie communautaire auprès des frères des Augustins de l'Assomption.
Et comment as-tu vécu le début de l'engagement, donc il y a 2 ans? Est-ce que tu as été confronté à certaines problématiques, ou notamment par rapport à ton entourage, même par rapport à toi-même dans ta vie? Et ou à l'inverse, est-ce que ça t'a plutôt aidé?
Alors, certes, ça m'a aidé parce qu'il y avait du coup une certaine cohérence dans ma vie, dans laquelle j'avais pu le François dans les études, et puis après le François à côté qui était le croyant et qui voilà, pouvait vivre pleinement sa vie vraiment de chrétien, mais de façon aussi engagée avec l'Église. Et c'est ce que permet les GFU, ça qui est très fort, c'est que c'est aussi l'Église qui m'invite à vivre en tant que séminariste dans mes études. Donc voilà, il y a une certaine cohérence et ça fait du bien, parce que ça permet d'être en phase avec soi. Mais comme tu peux peut-être imaginer, c'est pas évident d'être séminariste, donc avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire qu'on réfléchit dans la perspective d'être prêtre, dans le monde actuel, qui plus est, dans le monde du sport de haut niveau, qui est un monde très particulier, donc forcément ça crée beaucoup de difficultés. Pour prendre des exemples, par exemple, la question de la chasteté, et même la question de la séduction, voilà, de comment je regarde les gens, parce que mon quotidien c'était aussi avec des jeunes filles qui ont mon âge, qui sont plutôt jolies, je vais pas le cacher. J'ai été confiné avec elles pendant la peur du Covid-19 pendant 2 mois. Donc c'est des filles avec qui j'ai vraiment partagé mon quotidien. Leur tenue c'est en culotte soutive. Donc voilà comment j'éduque mon regard en tant que séminariste et personne de 24 ans qui grandit aussi au contact de jeunes filles. Donc voilà, c'est des vraies questions qui se posent. Il faut être à l'aise avec soi pour être confronté à ça. Forcément aussi, on sait qu'on est chrétien, peut-être pas forcément tout le temps séminariste, mais donc ça demande aussi d'être cohérent d'un point de vue moral. Je peux pas dire faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Donc dans mes prises de position, dans les paroles que je peux avoir, faut que l'évangile soit vraiment au cœur de ma vie. Donc c'est par exemple des types d'exemples que je peux prendre qui pouvaient être source de tension parfois, d'où l'importance d'avoir une relecture le soir pour montrer si j'étais plus ou moins ajusté dans ma journée, dans mes relations essentiellement.
Et est-ce que ta famille et tes proches, ils t'ont soutenu dans cet engagement?
Alors, faut savoir que sur les 2 années que j'ai fait au séminaire GFU, ils ont été au courant que la 2e année. Donc la première année, seul un très très bon ami et mon accompagnateur spirituel était au courant. Donc ça faisait du bien de pouvoir garder ça pour soi, parce que avec l'engagement de ma sœur, je voulais pas non plus en parler à ma famille, parce que j'ai pas envie de les embêter avec ça, et puis peut-être un peu peur de leur regard aussi. Mais j'étais très soutenu par du coup le prêtre qui m'accompagnait et puis mon meilleur ami. Donc oui, ça a été vraiment un vrai soutien à ce moment-là.
Et quand ils l'ont appris, la réaction était difficile ou pas?
Et bah, je m'attendais à ce que ça soit un peu compliqué, parce que comme tu peux l'imaginer, quand t'es le petit dernier et le seul garçon, donc c'est entre guillemets le nom de la famille qui est en jeu, je me disais mon père, comment il va réagir, j'ai un peu peur, sachant qu'il y a déjà aussi leur fille aînée qui s'est engagée. Et puis finalement, en fait, tout le monde l'a très très bien accueilli, en tout cas dans ma famille très proche, c'est-à-dire mes 2 parents et mes 3 grandes sœurs. Sachant que ma première sœur était la première au courant, et elle m'a aussi un petit peu aidé dans mon discernement quand même. Les 2 autres, et puis mes parents en fait, n'étaient pas forcément surpris, ce qui montre qu'ils me connaissent bien. C'est-à-dire qu'ils voyaient quand même qu'il y avait une certaine... J'étais assez bien accompli, et puis je m'épanouissais dans ce que je faisais. Et je pense que je transparaissais, en tout cas, comment dire ça, avec... Ils voyaient que j'étais bien dans mon quotidien, et puis ils sont pas tombés des nues quand je leur ai annoncé que j'envisageais et que je commençais à me former au vu du presbytère. Donc ils ont très très bien réagi. Par contre, mes grands-parents par exemple ne sont pas au courant, parce que là il y a un décalage de génération et puis ça crée d'autres tensions, donc je leur ai pas dit encore tout ça.
Et tes amis?
C'est pareil, je le crie pas sur tous les toits, c'est-à-dire les amis très proches avec qui je partage beaucoup de choses ou qui me connaissent très très bien, forcément c'est une évidence, ils le savent, parce que voilà, faut être cohérent. Des gens avec qui je partage des très bons moments, bah, j'ai pas envie que ça soit non plus une casquette qui m'est collée de séminariste. Donc s'il y a un moment où je trouve que c'est le bon moment, où ça va apporter quelque chose dans la relation, je le dis. Et en général, tout le monde l'accueille très bien. Et c'est même source de questions, donc ça fait des beaux échanges et puis ça fait évoluer notre relation. Et d'autres qui sont forcément loin du milieu de l'église, dans ce cas-là, je leur dis pas forcément. Et puis voilà, je leur dirai quand déjà mon discernement sera un peu plus avancé.
D'accord. Et donc la communauté où tu es actuellement, qu'est-ce que tu fais au jour le jour
Alors c'est une communauté religieuse, donc je vis avec des religieux. Qui sont les Augustins de l'Assomption, et la particularité de cette communauté, c'est que ce ne sont pas des contemplatifs, ils ne sont pas cloîtrés, ils ont un vrai apostolat, c'est-à-dire ils sont ouverts sur le monde. Ils ont une certaine forme de ce qu'on appelle sécularité et ils sont pas réguliers. Voilà, c'est ce qu'on appelle. Certes, ils sont régis par une règle, celle de Saint Augustin. Ils sont vraiment ancrés dans le monde. Donc, par exemple, pour l'un d'entre eux, il est directeur général de Bayard, qui est une grosse boîte sur Paris. L'un, il est éditeur et qui est en train de faire des podcasts. L'autre a deux thèses, donc enseignant à l'université, et ainsi de suite, et deux autres qui sont étudiants. Donc, je partage mon quotidien avec eux, c'est-à-dire les repas. Il y a le matin, à 7h30, on a la messe quotidienne. Donc ça, c'est un temps fort. Après, on partage le petit déjeuner. Chacun, après, commence sa journée comme tout autre professionnel ou étudiant. Et puis, on se retrouve, pour ceux qui peuvent, en fonction de nos contraintes, à 19h30 pour les vêpres, qui est une des prières, la liturgie des heures. Et puis, on partage, pareil, le dîner ensemble. Voilà, ça, c'est une semaine type. Sachant que le samedi, on a le droit de dormir un peu plus, donc on a la messe à midi. Et puis, ça nous permet de vaguer à nos occupations le matin. Et pareil, les vêpres le soir et le dimanche, on a un petit temps d'adoration, suivi des laudes, puis après la messe en paroisse, là où on veut. Donc voilà, c'est vraiment les temps forts, sachant que le lundi soir aussi, à 20h, la messe est suivie d'un temps de partage autour d'une thématique, d'une chose qu'on a envie de discuter entre nous. Donc là, par exemple, lundi prochain, ça va être la prière. La semaine dernière, je présentais ce qu'était le sport de haut niveau aux frères, du coup. Voilà, et ça revient toutes les semaines, et c'est vraiment les gros temps forts de notre semaine.
Et quelles sont un peu les valeurs de la communauté?
Alors, ça fait que 2 mois que je vis avec eux, donc ça sera très compliqué de m'étendre, mais ce qui m'attire chez eux, c'est vraiment cette ouverture sur le monde. Parfois, je trouve que l'église manque un peu d'ouverture et reste un petit peu dans cet entre-soi que moi, je qualifie comme ça. Et le fait qu'ils vivent vraiment ancrés dans ce monde-là, qui travaillent, ça leur donne une certaine justesse et crédibilité quand on s'adresse à monsieur et madame tout le monde. Donc c'est cette ouverture-là qui m'appelle beaucoup. Ils sont pas trop rigides d'un point de vue liturgique, ce qui me caractérise plutôt pas mal aussi. Il y a de la place pour tout le monde, en fait. Et puis la vie fraternelle, où c'est le cœur de leur engagement. Et c'est ce que je suis venu chercher aussi chez eux, c'est partager une vie de frère. Donc ça, c'est très fort.
D'accord. Et du coup, on va prendre un peu de recul par rapport donc, à ton lieu d'études et à l'INSEP. Est-ce qu'ils sont au courant de cet engagement? Et si oui, est-ce que tu as eu du soutien là-bas ou pas du tout?
Alors, c'est pas évident de... Tout le monde sait quasiment que je suis chrétien, catholique et fervent, engagé dans ma foi, parce que quand on part en stage à l'autre bout du monde, au Kenya, en Afrique du Sud ou même en Europe, j'essaye au plus possible d'aller à la messe, par exemple le dimanche, ou voilà, j'ai une vie de prière, ou même tout simplement pendant le confinement, ils m'ont vu prier plusieurs fois par jour, donc ils savent que je suis quand même un jeune chrétien assez engagé dans ma foi. Par contre, ils savent pas que je réfléchis potentiellement à consacrer pleinement ma vie vers une vie communautaire ou de prêtre. Je leur dis pas parce que pour l'instant, tant que ce choix est pas définitif, j'attends vraiment de finir mon discernement pour en parler. Puis en même temps, je vois pas ce que ça apporterait. Il y a juste une personne, une sportive à qui, parce que j'étais très proche d'elle, je lui ai dit vraiment que j'étais engagé en tant que séminariste. Et elle, ça l'a bouleversée, parce que voilà, du coup, elle a mis pas mal de mots sur ce qu'elle pouvait voir. Ça l'a touchée, et du coup, maintenant, c'est devenu une très bonne amie qui a quitté le sport de haut niveau pour des problèmes de santé. Et du coup, voilà, ça nous lie d'autant plus. Mais c'est la seule qui est au courant de ça.
Et est-ce que c'est difficile, du coup, de pouvoir garder ça pour toi, ou à l'inverse, ça te protège un peu?
Alors, c'est pas que ça me protège, c'est que je pense que si je me présentais en disant « Bonjour, François Chiron, doctorant et séminariste » ou en regardant la communauté des assomptionnistes, bah, ça interpellerait forcément, parce que c'est quelque chose qui est peu commun. Et on peut, ça, je pense qu'en tant que maintenant catholique, on sait la méfiance que les gens peuvent avoir pour l'Église. Donc c'est pas quelque chose que je mets en évidence tout de suite. Ça vient naturellement parce que par mes comportements, les conversations et mon centre d'intérêt... les gens qui me connaissent un peu, spontanément, ils mettent des mots, ils savent que je suis catholique. Donc non, je le dis pas, je le crie pas sur tous les toits. Je pense que, de toute manière, la question va se poser un moment ou un autre. Je pense que je leur dirai, parce que ils voient, maintenant, ça fait 4 ans qu'ils me connaissent, j'ai pas eu de copine depuis 4 ans. Ils sont pas fous, ils voient bien que j'évolue, mais vu qu'ils sont loin du milieu, ils sont pas forcément, je pense, en train de se soupçonner que je discerne ça.
Et comment tu arrives à lier donc ton engagement et tes études?
Alors ça, c'est un vrai combat au quotidien. C'est pas, comme je disais tout à l'heure, je suis catho à la maison, je suis professionnel à l'INSEP ou en tant que doctorant à Évry le jour et le soir, je redeviens catho. Il faut vraiment être ce que moi j'appelle être aligné et cohérent. Donc c'est pour ça que la relecture le soir est très important, voir à quel moment de la journée j'ai pas forcément été ajusté dans mes relations, mes prises de position, mes états de pensée, mes humeurs. Donc c'est vivre l'évangile, j'essaye en tout cas de le vivre au quotidien. C'est peut-être des mots un peu bateaux, mais c'est ça. Donc comment je vis en tant que chrétien, c'est juste en étant simplement François Chiron qui s'assume et qui, voilà, s'il faut parler ouvertement du Christ, bah, j'en parlerai ouvertement, mais c'est pas non plus mon propos quotidien, c'est juste par des petites attentions, des conversations, voilà, c'est des choses vraiment toutes simples. Mais comme tout autre chrétien au final, ça change pas grand-chose, je pense.
Et qu'est-ce que ton engagement t'apporte dans tes études ?
Bah, un soutien, c'est-à-dire que forcément, là, par exemple, on prie en communauté 2 fois par jour, donc ça lance la journée. C'est une vraie force, une vraie impulsion pour démarrer sa journée. Et le soir, c'est un peu un retour aux sources. Donc voilà, il y a ces deux temps forts-là, la messe et les vêpres le soir, qui permettent un peu d'encadrer la journée, ce qui permet aussi à midi à peu près de faire une petite pause et de faire un petit état des lieux. Donc c'est des choses qui permettent de rythmer la journée et d'être vraiment cohérent avec tout ça. Donc voilà.
Et est-ce que c'est difficile de gérer entre les études et l'engagement plus ta vie personnelle ?
Je crois que mes proches peuvent en témoigner. En fait, j'ai une vie assez bien remplie, peut-être même un peu trop, parce qu'on peut me faire ce reproche-là. Donc oui, c'est compliqué. Je me lève tôt, il y a la messe, il y a le petit déjeuner, je pars. La journée est remplie, après le soir, on revient, je prie avec les frères, on mange, je retravaille, et puis voilà, ça tous les jours. Et le week-end, je me repose pas, vu que non seulement je peux avoir des engagements à côté d'animation en pastorale par exemple, je suis aussi entraîneur à mon compte personnel, donc voilà, je suis en déplacement en compétition pour voir les athlètes. Donc c'est pas évident, c'est ce qu'on me reproche vraiment, c'est pour discerner, il faut aussi j'essaie le temps de la réflexion, ce que je me laisse pas tout le temps. Je pense que c'est une vraie voie de progression pour moi, c'est prendre un peu plus de temps de se poser pour bien réfléchir. Parce que là les journées sont un peu trop remplies, je pense.
Et qu'est-ce que tu attends du coup de cette année en tant que regardant ?
J'attends de, comme dit très bien l'un des frères à la communauté, je suis à la croisée des chemins. Donc il va falloir savoir, je pense, c'est pas impératif, hein, je suis pas au bord du gouffre, mais à la fin de l'année, ça serait bien de savoir quel chemin je vais emprunter. Et les chemins, tout simplement, ce sont des choix qui s'offrent à moi, c'est-à-dire, est-ce que je veux devenir religieux ? Si oui, est-ce que c'est avec l'Assomption ? Sinon, avec qui ? Si c'est pas la vie communautaire qui m'attire, est-ce que c'est toujours le fait d'être prêtre ? Dans ce cas-là, est-ce que c'est prêtre missionnaire ? Est-ce que c'est prêtre diocésain ? Ou alors, est-ce que je veux tout simplement... finalement, c'est pas ça, c'est pas trompé, mais j'aspire à autre chose. Ma vocation est ailleurs, une vocation baptismale un peu plus classique. Et là, le mariage ou le célibat. Sachant que cette question-là, je pense qu'elle n'est pas réglée, elle n'est jamais réglée. Mais je ne me projette pas du tout dans une vie d'homme marié. Un célibat non consacré, j'y mettrais pas forcément trop de sens non plus. Donc pour l'instant, je discerne vraiment et j'espère avoir... discerner cette question-là de la vie communautaire à la fin de l'année, et si oui, avec les assomptions ou pas, les assomptionnistes, pardon, ou pas.
Et est-ce que t'as peur de lâcher tes études, en tout cas ton monde professionnel où tu es aujourd'hui ?
Tu viens de mettre le doigt sur une question très importante et qui est source de tension en moi. C'est on dit souvent choisir c'est renoncer, je déteste ça, moi je veux tout le temps. Donc j'ai envie de choisir le sport de haut niveau et la vie consacrée. Et c'est vrai que si, par exemple, j'aspire à la vie communautaire en tant que religieux ou même prêtre, à un moment ou à un autre, il faudra au séminaire couper avec ce monde-là. Et puis, pour le noviciat, si je veux être religieux. Donc oui, il faudra faire le choix à un moment ou à un autre. Mais j'ai encore le temps de toute manière. Là, la question ne se pose pas à court terme parce que je me suis engagé 3 ans dans une thèse. Et les assomptionnistes me poussent, bien évidemment, à finir cette thèse-là. Je pense que la question se reposera de façon un peu plus insistante à l'issue de doctorat. Mais ça sera peut-être qu'un an, mais je pense pour la liberté du discernement, il faudra peut-être prendre un peu plus de hauteur, comme tu viens de le dire tout à l'heure. Mais si ma place est dans le monde du sport de haut niveau en tant que religieux, en tant que croyant, bon, je pense que le Seigneur me gardera une petite place bien au chaud pour que je puisse exercer dans ce monde-là. Donc je pense en tout cas que, et j'espère, pouvoir être un chrétien engagé dans le sport de haut niveau, qui, je pense, est un monde qui a besoin d'évangélisation. Donc avec plaisir, si en tout cas ma place est là-bas.
D'accord, je te remercie d'avoir partagé ton expérience dans cette émission. Je te souhaite de trouver ton chemin. Bonne soirée.
Bonne soirée, merci encore.